les jardinières.
Le mois de juin est lancé, l'été arrive, bientôt les grandes récoltes au jardin. Mais avant, il faut encore bien s'occuper de nos potagers. Les jardinières sont là pour vous aider. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène et bonjour à tout le monde.
Ce matin, nous recevons pour la toute première fois Claudine Miseret. Bonjour Claudine.
Bonjour Mylène, bonjour Raphaël.
Claudine Miseret, vous êtes permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales à la microferme biologique La Rochette à Charmoy. C'est un plaisir de vous accueillir.
Et vous, chers auditeurs, soyez les bienvenus chez les jardinières. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Dans quelques minutes, nous partirons à la cueillette de plantes sauvages comestibles. Mais avant de sortir, nous passons par le potager quand même. Dites-nous, Claudine, on fait quoi au jardin durant ce week-end prolongé ?
Déjà, on entretient les cultures parce qu'il fait beau et en même temps il pleut. Donc c'est parfait pour les mauvaises herbes. Donc malheureusement, on va faire un peu de désherbage.
Même si c'est très, très mouillé, on peut entrer dans le jardin.
Alors là, il va faire assez beau aujourd'hui, donc du moment que le sol est ressuyé, on peut sans autre aller faire un petit peu de jardinage.
En tout cas, Claudine, vous faites une belle entrée dans cette émission, hein, parce que parler de désherbage dès votre arrivée, vous donnez envie, hein, ça donne vraiment. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Les jardinières, vous le savez, c'est votre émission Jardinage. Et vous avez la possibilité de poser vos questions à notre professionnel, soit par téléphone, avec la chance de parler à Claudine en direct, au 0900 170 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez le faire par SMS également. Vous, il suffit de taper jardin, un espace, votre question. Vous nous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire qui est disponible sur notre site. Vous allez sous l'onglet émissions, questions jardinières et là vous pouvez y joindre une photo.
On se retrouve juste après une pause musicale et nous parlerons de plantes sauvages comestibles.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en première partie d'émission, nous allons quitter le potager pour partir en balade dans la nature. Claudine Miseret, vous allez nous parler de plantes sauvages comestibles. Avant de parler en détail des plantes à cueillir, nous allons parler de la cueillette en général. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut cueillir ce qu'on veut et où on veut ?
Alors malheureusement non. La première chose à laquelle il faudra faire attention, c'est les réserves naturelles. Donc vous savez, c'est le logo avec la chouette. Là, la cueillette de n'importe quoi est totalement interdite. Même un petit peu, même juste pour goûter, on cueille rien du tout. Simplement pour préserver les écosystèmes. Et puis évidemment, on évitera de cueillir toutes les plantes protégées. Alors comment savoir si une plante est protégée ? Il y a un site qui s'appelle infoflora.ch. Et là, il donne l'information par rapport au statut de la plante, si elle est protégée, c'est cantonal ou fédéral, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et puis, évidemment, on va éviter de cueillir dans le jardin du voisin, à moins qu'il soit d'accord.
Il y a des zones autorisées ou libres à la cueillette. Est-ce qu'il y a des endroits, par contre, à éviter et pourquoi ?
Alors, plutôt éviter le bord des routes, surtout si elles sont très fréquentées, et puis les alentours d'une décharge ou d'un dépôt de voiture. Évidemment aussi éviter les sites qui sont potentiellement pollués. Et puis, moi, j'essaye d'éviter toutes les zones qui sont traitées ou les bordures de champs traitées. Et l'idée, c'est simplement d'éviter de consommer des plantes qui sont polluées ou qui peuvent contenir des métaux lourds ou ce genre de choses.
C'est mieux quand même. Oui. Est-ce que la cueillette sauvage peut être dangereuse pour l'environnement ?
Alors non, si elle est pratiquée correctement. Donc il faudra éviter, comme on a dit, les plantes protégées, les réserves, etc. Mais c'est aussi une question de respect de la nature. Donc on va évidemment ne pas malmener la plante si on n'a pas besoin de la malmener. On va récolter uniquement ce dont on a besoin. Et puis on va faire attention où on met les pieds parce qu'il y a quand même beaucoup de plantes qui sont dans des zones humides ou dans des prairies qui peuvent être fragiles. Donc on va faire attention de prendre soin de ces milieux et puis on va ramasser ces déchets en partant aussi évidemment. Et une dernière recommandation, c'est d'éviter le cœur de la forêt parce que les animaux ont aussi besoin de tranquillité.
Le message est donc bien passé. Avant de partir récolter ces plantes sauvages, donc on l'a compris, on s'informe et on s'équipe, on prépare son matériel. De quoi avons-nous besoin ?
Alors si vous êtes débutant, je vous dirais la première chose à prendre, c'est une flore, c'est-à-dire un livre qui vous renseignera sur les plantes. L'idée, c'est pas de connaître toutes les plantes de la flore indigène, parce qu'il y en a des centaines, voire des milliers. Donc une fois que vous connaissez quelques plantes, finalement, autant se cantonner à celle-là et puis apprendre les autres petit à petit. Mais quand vous êtes débutant, c'est vraiment important d'avoir une flore pour être sûr de reconnaître les plantes et de cueillir les plantes qui sont consommables. Donc ne jamais cueillir une plante dont on n'est pas sûr. Et puis, vous inquiétez pas, il y a quand même beaucoup, beaucoup de plantes qui sont comestibles. Finalement, le mieux, c'est encore d'apprendre celles qui sont toxiques. Il y en a moins, voilà. Et puis, de récolter toutes les autres. Et une fois qu'on connaît un peu ces plantes et qu'on a notre flore, on peut prendre un sac en toile ou bien un panier, un couteau selon les plantes qu'on veut récolter. Et puis, éventuellement, une pellette si on veut récolter des racines.
Et puis, quand on part cueillir ces plantes, on trouve un endroit où il y en a beaucoup. On peut ramasser tout ce qu'on veut ?
Alors, toujours du moment que la plante n'est pas protégée, on ne peut quand même pas ramasser tout ce qu'on veut. Il y a quand même pas mal de choses à faire attention avec cette récolte de plantes sauvages. L'idée, c'est d'en laisser pour la nature, évidemment, parce que si on récolte tout, les plantes ne peuvent pas se régénérer. Donc, en général, c'est des colonies. On va voir tout d'un coup une colonie d'aspérules ou une colonie d'orties, etc. Alors, il y a certaines plantes qui sont plus vigoureuses que d'autres, qui vont avoir plus de facilité à se régénérer. Mais il y en a quand même certaines qui ont besoin vraiment d'un cycle protégé, entre guillemets, qui ont besoin de faire leurs graines ou qui ont besoin de maintenir de l'énergie dans leurs racines. Donc, la règle générale, c'est maximum un quart des plantes, des graines ou des fruits, ou même des racines. Évidemment, récolter une racine, ça détruit la plante. Donc, on va faire en sorte de récolter toujours seulement le nécessaire. Et puis, on va essayer d'en laisser pour la faune aussi.
Puis en laisser un petit peu pour les copains aussi, des fois.
Oui, oui, exactement, comme les morilles. Quand vous allez aux morilles, vous pourriez en laisser quelques-unes quand même.
Il peut également y avoir des risques, Claudine. Parfois, on parle de l'échinococcose alvéolaire, qui est la mal nommée maladie du pipi de renard. Il y a la douve du foie. Que faire pour éviter ces maladies ?
Alors effectivement, l'échinococcose, elle est mal nommée maladie du pipi du renard parce qu'elle est transmise par les selles en fait, des renards, mais aussi des chiens et des chats domestiques. On va éviter de récolter des plantes qui sont souillées ou qui sont proches d'excréments, que ce soit de chat, de chien ou de renard, ou de n'importe quoi d'ailleurs, hein, on va quand même éviter. Et puis, si on ramasse des plantes qui sont proches du sol ou qui sont au sol, il faudrait les manger cuites. Donc bien cuites. Et puis, il faut savoir quand même que les animaux, ils sont un peu fainéants, ils sont comme nous, ils vont prendre des sentiers qui existent. Donc si vous êtes hors sentier, à des plantes, enfin, vous récoltez des plantes qui ne sont pas trop proches du sol, normalement il n'y a vraiment pas de risque du tout. Et puis si vraiment vous pouvez juste les cuire, quoi. Ah, idem pour la douve du foie. La douve du foie, elle est transmise par les excréments des ruminants, en particulier des ovins. Donc, si vous voyez un caca de mouton, vous allez éviter de manger une plante à côté d'un caca de mouton, quoi.
Moi, je pensais que les animaux sauvages ne prenaient pas les sentiers battus. Et je me trompe.
Alors, ouais, c'est pas forcément les sentiers pédestres, hein, mais on voit en général des petits sentiers, des petits chemins. Ils sont un peu fainéants, hein, je vous dis, ils sont comme nous.
En tout cas, merci beaucoup, Claudine. On va se retrouver dans quelques instants. Vous nous parlerez de quelques plantes facilement reconnaissables en nature et très bonnes à déguster.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, on s'intéresse aux plantes sauvages et plus précisément aux plantes sauvages comestibles. Nous sommes en compagnie de Claudine Miseré, permacultrice à Charmoy. Claudine, même sans s'en rendre vraiment compte, on a déjà tous cueilli ou ramassé des plantes sauvages comestibles. Bah, je pense par exemple aux fraises des bois, aux mûres ou aux framboises. Vous pouvez nous en citer quelques-unes ?
Oui, il y en a beaucoup, hein, Mylène, mais je vous ai fait une petite liste, celle du moment. Alors, il y a le trèfle, l'oseille, le plantain, l'origan sauvage aussi, les feuilles de framboisier, les framboises, la réponse en épi, les gopodes, le pissenlit, le thym serpolet. Je continue ?
Il y a largement de quoi faire.
Il y a de quoi faire. Franchement, l'autre jour, en faisant mon petit repérage, je me suis dit, mais c'est incroyable, cette nature, elle a énormément à nous offrir en abondance, quoi.
On a parlé des plantes sauvages bien connues et qui sont comestibles. Claudine, les orties ne font pas que piquer les mollets, elles se mangent.
Ah oui, les orties, en plus c'est mes préférées. C'est vraiment des incontournables parce que déjà elles sont bonnes au goût. Elles sont extrêmement riches en minéraux, elles sont pleines de protéines, tonifiantes, elles sont bonnes pour les fibres, etc., etc. Mais effectivement, elles piquent. Parce qu'elles ont des petites aiguilles de silice qui contiennent de l'acide formique notamment. Et c'est pour ça qu'elles nous piquent, parce que cet acide, c'est le même acide que les fourmis. Hein. Donc, il nous donne cette sensation de piqûre. Et du coup, pour les récolter, je vous promets qu'on peut les récolter à main nue si on les prend de bas en haut. Ça pique pas parce qu'on casse pas ces petites aiguilles de silice. Et puis, on récolte surtout les jeunes feuilles ou bien la tête de l'ortie.
Donc quand on va frotter sa jambe aussi, pareil, on se met de bas en haut.
Bah vous essayez, hein. J'ai jamais essayé. Mais
vous nous direz, Raphaël.
Promis, je vais essayer ça ce week-end.
On va passer des orties aux petites fleurs, on en voit partout, on fait des petits colliers avec les pâquerettes. On ne s'en rend pas compte, mais oui, elles sont comestibles.
Oui, oui, elles sont comestibles, elles sont vraiment jolies, et puis elles sont jolies en salade aussi. Donc on peut manger les feuilles crues ou cuites, mais le mieux c'est quand même de les mélanger, parce que déjà faire une salade avec des feuilles de pâquerettes, il faut se lever tôt. Et puis elles ont un goût qui est quand même assez fort, donc l'idée c'est de mélanger les feuilles de pâquerettes avec d'autres plantes. Et puis on peut utiliser le capitule, donc la fleur, pour décorer les plats. Et on peut même conserver les boutons floraux au vinaigre, comme des câpres.
Oh. Yeah. Voilà. Des petites astuces comme ça, glissées discrètement.
Mais
c'est
oui.
La pleine saison également. Elles sont en fleurs partout. Parlez-nous des sureaux. Alors déjà, pour être sûr de reconnaître du sureau noir et pas son faux frère, comment on s'y prend?
Alors, il y a deux sureaux, effectivement, qui poussent beaucoup dans notre région. Il y a le sureau noir et le sureau yèble. Donc, celui qu'on mange, c'est vraiment le sureau noir, même s'il n'est pas noir du tout, hein, mais il s'appelle comme ça. Donc, le sureau noir qui est comestible, lui, il a des fleurs blanches, blanc-crème, comme ça. Et les fleurs sont que blanc-crème. Elles sont pas, elles n'ont pas d'autres couleurs. Alors que chez le sureau yèble, dont les fruits sont supposés toxiques, les fleurs sont crème, mais l'intérieur est rouge. Donc ça donne vraiment ce petit point rouge au milieu de la fleur. Et du coup, vous vous souviendrez que rouge, ça veut dire interdit. Donc on ne les prend pas. Et puis, quand c'est en fruit, il n'y a plus les fleurs. Donc comment reconnaître quand une plante, si la plante en fruit est le sureau yèble ou le sureau noir, les fruits du sureau yèble pendent vers le bas, alors que les fruits du sureau noir, au contraire, non, c'est le contraire, pardon. C'est le sureau noir qui pend vers le bas, voilà.
Souvent sur le sureau, juste pour terminer là-dessus, il y a des petits pucerons. Quand on veut ramasser, couper les fleurs pour en faire un sirop, par exemple, on fait quoi? On passe les fleurs sous l'eau ou juste une petite secouée, ça suffit?
Alors, ce serait un petit peu dommage de passer les fleurs sous l'eau parce que on va perdre tous les pollens qui est vraiment ce qui donne ce goût de fleurs à la plante. Donc, on va déjà éviter de récolter juste après une pluie, donc pas juste maintenant puisqu'il a plu par chez nous. Voilà, malheureusement, on va plutôt éviter de les rincer, donc on va enlever les pucerons à la main.
Merci beaucoup, Claudine, pour tous ces éclairages. On va revenir après la pause et continuer à parler de ces plantes sauvages. Restez bien avec nous, les jardinières, c'est jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Nous parlons plantes et végétaux jusqu'à 8h avec les jardinières. Ce matin, nous sommes en compagnie de Claudine Miseret, permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales à la microferme biologique La Rochette à Charboy.
Et si vous voulez poser vos questions à Claudine ce matin, elles sont les bienvenues, soit par téléphone. Vous composez le 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question. Vous nous envoyez tout ce petit monde au 939 ou par le formulaire avec la possibilité de joindre une photo. Là, ça se passe sur notre site internet sous l'onglet émissions, questions aux jardinières.
En première partie d'émission, on a parlé de plantes sauvages comestibles. On va y revenir parce qu'on a encore 2-3 questions à poser à Claudine. On voulait parler avec vous, Claudine, de cette plante qui s'appelle l'aspérule odorante, une petite plante vivace des sous-bois frais et humides. Alors, elle se mange, elle a un nom un peu... On pourrait croire qu'elle ne se
mange pas.
Ça ne
donne pas envie. Hein.
Non. Alors, déjà, peut-être nous décrire cette plante.
Alors, c'est une petite plante tapissante qui a des tiges très fines comme ça et des feuilles disposées en étoiles autour de la tige. Et puis, des petites fleurs blanches qui ressemblent à des petites étoiles aussi. Donc, elle est assez reconnaissable. Et puis, cette plante se mange, oui, mais elle ne se mange que séchée parce que fraîche, elle n'a aucun goût ni aucune odeur, quasi. Donc, on les récolte par temps sec, on les met à sécher et on les sèche très bien. Parce que malheureusement, si elle n'est pas bien séchée, il peut y avoir des moisissures qui se développent dessus. Et ces moisissures sont très toxiques puisqu'elles sont anticoagulantes. Donc la plante n'est pas toxique, mais la moisissure qui peut se développer dessus, oui. Donc on va bien sécher cette plante. Et puis, une fois qu'elle est sèche, elle développe une odeur qui est super agréable. Ça sent le foin coupé. Une odeur d'été comme ça. Et c'est une odeur qui se conserve très très longtemps. Donc on peut l'utiliser pour aromatiser des crèmes, faire de la crème brûlée, des glaces. On peut faire des vins aromatisés, on peut l'utiliser en tisane. Et puis moi ce que je fais c'est des petits coussinets pour le dodo. Donc en fait je mets ces feuilles séchées dans des petits coussins. Et puis ça me donne une odeur de foin coupé comme ça le soir avant de m'endormir.
grâce à Claudine, quand vous verrez prochainement chez votre glacier une glace à l'aspérule odorante, vous saurez donc de quoi ça vient. Claudine, dites-nous, c'est quoi votre cueillette sauvage favorite et pourquoi ? Parce que vous faites partie de ces gens qui préfèrent aller en forêt plutôt qu'au supermarché.
Oui, bon, alors comme je vous ai dit, hein, je vais quand même au supermarché aussi. Non, mais franchement, ces plantes, elles sont incroyables parce que déjà, elles sont extrêmement riches en minéraux, en vitamines, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les légumes aujourd'hui, étant donné les méthodes de culture. Mais ces plantes-là, elles sont vraiment pleines de goût, pleines de vitamines, pleines de minéraux. Et puis, c'est tellement agréable d'aller en forêt, de récolter... ces choses qui nous entourent, qui sont là pour nous, enfin pas que pour nous, mais je veux dire, elles sont à notre disposition. Effectivement, c'est gratuit, donc ça fait quand même économiser un peu. Et puis, c'est simplement aussi le plaisir d'aller en nature. Mais je vous ai parlé des orties avant, et je vous dirais que ma récolte préférée, c'est les orties. Par contre, j'ai un petit secret, c'est que je les cueille quand même avec des gants.
Tricheuse.
Et puis, une fois que je les ai cueillis avec des gants, je fais vraiment énormément de choses avec, donc... Des fois, je les utilise crues en smoothie le matin. Je fais de la poudre d'ortie avec les feuilles séchées que j'utilise dans des knuffelis, dans de la pâte à cake, dans ma pâte à pizza, etc. etc. Cuite, elle peut servir à faire des quiches, aussi des cakes, des knuffelis, toutes sortes de choses. Et puis des pestos fraîches et bien évidemment la soupe de chalet. Et ça, c'est un délice.
Merci beaucoup Claudine. Et on le rappelle, hein, donc on peut cueillir les orties à main nue, mais finalement c'est un conseil que personne va suivre.
Exactement. Et Claudine, on va aussi le dire, vous organisez des balades dans la nature pour apprendre aux gens à accueillir la bonne plante au bon moment, sans tout massacrer sur son passage. C'est important quand même.
De ne pas massacrer les choses.
D'apprendre aux gens, oui, bah, de massacrer. Et puis, on trouve toutes les informations sur votre site. On va le donner maintenant. www.vivs-la-permaculture.ch, si je ne me trompe pas, c'est juste ?
Oui, c'est tout juste.
Et puis, on va se retrouver dans quelques instants. Vous allez répondre aux questions de nos auditeurs cette fois-ci.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Ce matin, nous sommes en compagnie de Claudine Miseré qui répond à vos questions. Raphaël, avant de répondre aux questions reçues, on va peut-être rappeler comment poser toutes ces questions.
Eh bien, déjà, tout simplement, vous nous appelez. C'est le plus simple. 0900 70 20 20. Vous nous appelez, vous posez votre question en direct à Claudine. Elle y répond également en direct. On passe un bon moment à l'antenne et c'est vachement plus sympa. Et si vous êtes plus timide, vous pouvez le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace, suivi de votre question 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site internet.
On va prendre cette question que nous avons reçue de Joëlle de Glovelier. Elle nous dit « Bonjour, chaque hiver, mon citronnier est victime de cochenilles et perd ses feuilles, malgré le traitement au savon noir. Comment éviter cela l'hiver prochain ?»
Alors déjà, c'est vrai que les cochenilles, elles attaquent principalement les agrumes. En tout cas, j'imagine ces cochenilles-là, puisqu'elles sont sur un citronnier. Et en fait, on va d'abord essayer de booster l'immunité de ce cher citronnier en lui permettant de respecter son cycle naturel. Parce qu'il faut savoir que les citronniers, ils ont aussi un cycle naturel, donc ils ont aussi besoin d'une période plus froide. Donc on va essayer d'éviter de le laisser à température d'appartement tout l'hiver. On va essayer de le mettre à une température un peu plus basse pendant les mois froids, donc à 10 degrés environ. Et il y a même certains citronniers, je ne sais pas duquel il s'agit ici, mais qui vont supporter même des gelées. Donc on va essayer justement de renforcer l'immunité de ce cher citronnier en lui permettant de respecter son cycle. Et puis malheureusement pour les cochenilles, à part le savon noir donc, qui vise à les asphyxier, il n'y a pas de miracle, il faut les enlever à la main. Donc dès qu'on voit une petite cochenille, on la prend et on l'écrabouille, malheureusement pour elle. Et puis on peut éventuellement essayer de mettre un petit peu d'alcool à brûler dans le savon noir. Et si on veut une méthode un peu plus naturelle, on peut faire une décoction de lierre qui est toxique pour quand même pas mal d'insectes.
Merci
et l'appliquer
beaucoup.
Sur ce citronnier.
Merci beaucoup Claudine pour tous ces bons conseils. Je vous propose d'enchaîner avec cette question de Christophe de Kourou. Bonjour, je possède un magnifique laurier. Hélas, les feuilles deviennent comme mangées, trouées. Quel est le problème? Que puis-je faire pour remédier à cela? Il a envoyé des photos. Est-ce que peut-être déjà vous pouvez nous décrire ces photos?
Alors on voit les feuilles d'un laurier qui, à part ça, ont l'air assez saines. Elles sont vertes, normales, voilà, pas spécialement jaunies. Mais effectivement, il y a des gros trous dans ces feuilles. Et Christophe a assez bien décrit la situation, c'est qu'elles ont été mangées donc, par des chenilles probablement. L'attaque est probablement assez ancienne puisqu'on voit que les bords des morsures entre guillemets, sont un peu brunies, cicatrisées comme ça. Donc malheureusement, bah là, il n'y a rien à faire, puisque l'attaque est déjà passée. Et à moins qu'il retrouve d'autres chenilles sur son laurier, bah voilà quoi, il n'a plus qu'à laisser les feuilles repousser.
Merci beaucoup, Claudine. On a reçu une question de Anna Maria de Dombresson qui nous demande, elle voudrait savoir où on trouve l'ail des ours. Elle aimerait également savoir si elle peut en planter sur son balcon. Alors déjà, bah, la saison de l'ail des ours est un petit peu terminée, si je ne me trompe pas, Claudine.
Bah, tout à fait, ça dépend des endroits. On va encore pouvoir récolter les bourgeons, enfin les fleurs qu'on peut manger aussi. C'est vrai qu'à partir de juin, dès qu'il y a les grosses chaleurs, les ailes des ours ont plus ou moins fini leur cycle. Donc voilà, on est proche de la fin de la saison. Mais elle pourra quand même en cultiver sur son jardin pour l'année prochaine. Sur son balcon, pas sur son jardin. il faudra qu'elle essaye de recopier la nature en fait, en donnant à ces ailes des ours les conditions qu'elles vont trouver dans la nature, c'est-à-dire un sous-bois assez humide. Si elle a une jardinière qui est à l'ombre, elle peut mettre des bulbes d'ailes des ours dans sa jardinière en prévision de l'année prochaine ne pas oublier d'arroser puisque ces ailes des ours n'aiment pas du tout la sécheresse.
Merci beaucoup Claudine pour tous ces bons conseils. On parlera encore dans quelques instants et on répondra à Johanna de Courtetel qui nous a fait une jolie photo de son avocatier. On y répondra dans quelques instants dans la suite et la fin des jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Les dernières minutes des jardinières, c'est maintenant. On va répondre encore à une question, Raphaël.
Exactement, celle de Johanna de Courtetel qui a passé par le formulaire sur notre site internet. Bonjour les jardiniers. J'ai réussi à faire pousser un avocatier dans de l'eau. Il est maintenant haut de 40 cm et a de nombreuses feuilles. Ma question est la suivante. Dois-je le laisser se développer dans l'eau ou dois-je le mettre en terre? Ou si oui, quel terreau faudrait-il utiliser?
Alors, effectivement, les avocats, ça pousse pas dans l'eau. Les avocatiers ne poussent pas dans l'eau, donc il faudra qu'elles le mettent en terre à un moment ou à un autre, avec n'importe quel terreau, en fait, du moment qu'il n'est pas trop acide, que ce n'est pas un terreau de tourbière ou n'importe quoi. Terreau de jardinerie, ça ira très bien. Par contre, j'aimerais juste prévenir Johanna que les avocatiers dans la nature sont très grands. Donc, si elle veut que son avocatier produise des avocats, il lui faudra un très grand appartement.
Très haut.
Voilà. Très haut. Ou bien sinon, c'est vrai que c'est des belles plantes, hein, donc autant le laisser grandir un peu. Mais si c'est pour une production d'avocats, malheureusement, je crois que ça ne va pas marcher.
Mais ça reste une belle plante.
Exactement.
Avant de vous laisser filer, Claudine, on est mi-juin, non début juin, pas encore mi-juin.
Le 4 juin, on est début juin, oui.
Ça finira le 12 cette année, le mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut encore semer au potager directement en pleine terre?
Ah bah, y a encore beaucoup de choses. On pourra semer des salades, évidemment, à peu près toute la saison, des petits radis, pas mal de légumes feuilles, et puis des haricots. Là, c'est la période des haricots, toutes sortes de haricots. Et puis, c'est le dernier moment pour les courges et les courgettes.
C'est-à-dire directement en pleine terre?
Oui, directement en pleine terre, ouais.
Et moi, j'ai une question un petit peu personnelle. J'ai semé des tomates qui ont mis des jours et des jours à sortir de terre. Et elles sont toutes petites. Elles doivent mesurer, je sais pas, 4 cm maintenant. Est-ce que c'est cuit pour elles, pour me donner des tomates cette année?
Tu habites où?
J'habite dans le canton de Neuchâtel. C'est environ 700 mètres d'altitude.
Oui, alors il faudrait les mettre sous serre, en tout cas sous abri, parce que effectivement, elles prennent quand même du temps pour mûrir. Donc l'idéal, ce sera de les mettre quand même sous abri pour que les tomates aient le temps de mûrir.
Ou d'aller au marché. Merci beaucoup, Claudine, pour ces précisions.
Et Mylène a réussi quand même à donner de l'information sur son lieu d'habitation sans nous donner son adresse, ce qui était plutôt pas mal.
Claudine, on rappelle que vous êtes permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales à la microferme biologique La Rochette à Charmoy. C'était un plaisir de vous recevoir ce matin. On vous dit à bientôt chez les jardinières.
À bientôt.
Et puis la semaine prochaine, c'est Jean-Pierre Ribaud, pépiniériste à Queuve, qui répondra à toutes vos questions jardinage. Et bien sûr, n'attendez pas samedi prochain pour nous faire parvenir vos questions. Faites-le à tout moment via le formulaire qui est disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission questions jardinières. Vous pouvez également le faire par SMS en nous envoyant un petit message jardin, votre question que vous nous envoyez au 939. On a tout dit pour aujourd'hui. Bon week-end, Mylène.
Et bien bon week-end, Raphaël. Et très long week-end à toutes et à tous. À samedi prochain.
7h, 8h, les jardinières.